Voilà, gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Et la fois dernière, nous avions commencé le livre de 1 Samuel, parce qu'il y a aussi 2 Samuel, mais c'est la même personne. Donc il n'y a pas 2 Samuel, il n'y a qu'un seul Samuel, mais il y a 2 livres de Samuel. Donc nous avions commencé le premier et avec l'histoire d'Elkana et sa femme Anne qui n'arrivait pas à enfanter. Et puis, finalement, elle a prié intensément et elle a dit au Seigneur, si tu me donnes cet enfant, ben, je te le prêterai toute sa vie. Donc, il va vivre pour te servir. Et il ne s'agit pas d'un prêt imagé ou spirituel, non, c'était physique. Donc, cet enfant-là va habiter au temple et servir Dieu là-bas, loin de sa famille. Et ça a été la grande prière d'Anne, une prière spirituelle qui l'a plongée dans les lieux célestes, en quelque sorte, parce qu'il est écrit que quand elle a fait cette prière et que le sacrificateur Élie lui a dit que Dieu réponde à ta prière, il nous est dit que son visage n'était plus le même. Donc il y a quelque chose qui a changé en elle depuis ce jour-là. Donc en réalité, depuis ce jour-là, il y a eu une connexion entre elle et le ciel directe, solide. Donc il y a toujours un temps comme ça où Dieu se branche à nous sérieusement. Ça devient comme un couloir direct entre le ciel et nous. Et je pense que c'était le cas d'Anne. Elle était transformée. Et finalement, le Seigneur a permis qu'elle tombe enceinte. Et nous avons lu jusqu'au moment où elle a accouché. On avait dit qu'on allait reprendre donc les versets. Chapitre 2, les versets 22, les versets de la fin où on parle de la naissance de Samuel. Non, non, c'était chapitre 1, excusez-moi, chapitre 1. Donc, on va lire à partir du verset. Vingt au verset 24, au verset jusqu'à la fin.
Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel.
Voilà, donc finalement, Anne, va jusqu'au bout. Elle donne son fils. Donc elle va jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est ce que son mari avait dit. On en avait parlé la fois passée. Son mari a dit, veuille que l'Éternel accomplisse sa parole. Pourtant, c'est Anne qui avait sorti la parole, je donnerai à l'Éternel. Mais son mari avait saisi que c'était quand même quelque chose de très fort qu'une mère donne son fils unique en ce moment-là. C'était son fils unique qu'une mère, et après des années de stérilité, donner son fils unique, c'était un sacrifice terrible. Et il n'y a que Dieu qui, à travers Anne, pouvait faire cela. C'est pourquoi il dit, veuille l'Éternel accomplir sa parole. Et finalement, oui, Anne va jusqu'au bout avec Dieu et elle donne ce fils. Et pas de n'importe quelle manière. Elle amène même des taureaux pour sacrifier. Donc en signe de reconnaissance devant Dieu, en signe de remerciement, alors qu'elle s'apprête à donner quand même son fils. Donc en quelque sorte, elle le donne avec joie, même si c'est un grand sacrifice. Elle le fait avec joie parce qu'elle le fait pour Dieu. Donc on voit bien qu'il y avait une dimension dans Anne qui avait changé. Ça, ce n'est pas le comportement d'un humain normal. Il y a quelque chose, elle était entrée dans une autre dimension d'échange et de communion avec Dieu au point de donner son fils avec joie en faisant des sacrifices. D'ailleurs, cette joie va être confirmée à travers le chapitre 2 que nous allons lire.
Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint.
Amen. Alors, nous voyons, oui, question déjà, mais voilà. On laisse la place à la question et puis on va continuer.
Oui, pasteur, je voulais revenir au chapitre 1er. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire, à notre époque aujourd'hui, comment imiter Anne ? Comment prêter nos enfants à Dieu dans le contexte actuel ?
Voilà, dans le contexte actuel, c'est juste, je pense que de nos bouches, on le dit en tout cas, mais comment imiter Anne, c'est aller jusqu'au bout comme Anne l'a dit. Si tu as vraiment donné ton enfant à Dieu, tu dois demeurer dans cet état-là jusqu'au bout. C'est-à-dire quand tu vas apprendre qu'un malheur lui est arrivé, tu gères ça avec Dieu et non pas comme si c'était ton enfant. Quand tu es en train de faire des projets pour lui, tu fais ça avec Dieu, c'est-à-dire que tu es à l'écoute de Dieu, tu laisses Dieu faire ce qu'il veut faire pour ton enfant. Donc, en quelque sorte, comment le faire ? C'est gérer nos enfants
selon Dieu et avec Dieu. Donc selon Dieu, parce que nous tous nous lisons la parole, nous savons à peu près ce qu'on peut faire, mais avec Dieu dans le sens où il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la parole, que nous fonctionnons avec Dieu dans la gestion de tout cela. Donc on aille jusqu'au bout. Donc c'est cela. Donc moi je crois que la valeur d'Anne, c'est qu'elle est partie jusqu'au bout. Mais parce que les paroles, on en entend jusqu'aujourd'hui, les belles paroles, je donne mes enfants, je les laisse entre les mains de Dieu. Mais dès qu'il y a un souci, on récupère, on commence à faire des soucis comme si c'était à soi. Donc finalement, on n'avait pas donné. Donc je n'ai pas dit qu'on n'ait pas de soucis, mais qu'on se souvienne dans les moments de soucis qu'on l'a donné à Dieu et que Dieu s'en occupe. Voilà, qu'on s'en souvienne. Donc Anne est allée jusqu'au bout. Je pense que c'est ce qu'on peut faire pour nos enfants. Aller jusqu'au bout. On peut avoir le projet que notre enfant fasse polytechnique, mais quand les voies du Seigneur l'amènent à faire autre chose, qu'on se dise, mais oui, j'avais donné mon enfant à Dieu. C'est vrai qu'il ne va pas faire ce que moi j'aurais voulu, mais j'ai laissé entre les mains de Dieu que Dieu conduise toutes choses. Mais vous allez voir des parents insister jusqu'à ce que leur projet personnel s'accomplisse dans l'enfant. Donc ça, c'est des ils ont dit de la bouche qu'ils ont donné l'enfant, mais ils n'ont pas réellement donné. En réalité, l'enfant est un moyen de se faire valoir et on veut à tout prix que notre projet personnel s'accomplisse à travers l'enfant. Donc il faut aller jusqu'au bout, être prêt, accepter pour l'enfant un chemin que nous, on n'avait pas décidé et laisser Dieu faire. C'est ce que je peux dire. Aller jusqu'au bout.
Deuxième question, pasteur. Quelle aurait pu être la conséquence si Anne n'avait pas respecté son engagement? Quelles pourraient être les conséquences du fait que on n'allait pas jusqu'au bout, finalement?
Bon, je ne peux pas parler à la place du Seigneur. Tout ce que je peux dire, ça serait, dans un premier temps, c'est que le plan de Dieu initial pour cet enfant n'allait plus s'accomplir. Et finalement, vous savez... Les gens pensent toujours que quand on se sacrifie pour Dieu, c'est comme on perd. Moi, je peux vous dire qu'on gagne parce qu'il y a un plan glorieux qui est dessus cette affaire-là. Et aujourd'hui, Jésus, son nom a été placé au-dessus de tout nom à cause du fait que, Philippiens 2, à cause du fait qu'il s'est donné à la croix. Mais avant, est-ce que les Juifs connaissaient Jésus? Ils ne connaissaient pas Jésus. Il ne connaissait pas le Fils de Dieu. Il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas son Fils. Donc aujourd'hui, par son sacrifice à la croix, son nom à lui, Jésus, a été placé au-dessus de tout nom. Donc au début, on a l'impression qu'on perd. En réalité, il y a un plan glorieux. Il y a un plan glorieux devant, sur tout sacrifice qui est fait au Seigneur. C'est ce que je peux dire, que ce plan glorieux ne s'accomplira pas, mais... Dieu est bon, il peut toujours nous rattraper avec un plan B. Ça, c'est lui qui connaît. Donc, quand nous lisons la prière d'Anne, on voit quelle joie. Ça nous rappelle la prière de qui? Dans le Nouveau Testament. Il y a quelqu'un qui a prié à peu près pareil. On peut aller dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Il y a quelqu'un qui fait une prière comparable. Donc on n'a pas trouvé. Voilà, c'est Marie qui fait une prière comparable au verset 46. On va lire ça.
Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Et il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours.
Voilà. On voit, c'est les mêmes termes. Hein. Donc, elle commence par se réjouir pour ce que Dieu a fait pour elle. Donc, elle commence par se réjouir pour ce que Dieu a fait pour elle. Grâce au Seigneur, là c'est Anne, hein. J'ai de la joie plein le cœur. Donc, mon âme bénit le Seigneur comme Marie l'a fait. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute, je peux rire de mes ennemis, je me réjouis, Dieu m'a secouru. Là, je lis en français courant. Voilà. Donc, elle commence d'abord par se réjouir pour ce que Dieu a fait pour elle. Et puis, curieusement, la prière prend une autre direction. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Donc là, maintenant, il parle de Dieu lui-même, combien il est grand. Ensuite, ne multipliez pas les paroles hautaines, ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions des hommes. Les guerriers puissants voient leurs arcs se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force. On a lu à peu près les mêmes choses là-bas. Là, maintenant, il parle des orgueilleux qui sont confondus. Et là-bas, on a lu, ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. On a lu les mêmes choses là-bas. Donc, il a les gens qui étaient affamés sont rassasiés. Donc, c'est à peu près pareil. Finalement, nous passons d'une affaire personnelle à une affaire qui concerne beaucoup plus de gens. On passe d'une affaire personnelle, c'est-à-dire Dieu m'a béni, il m'a donné un enfant, mais cet enfant-là est au service de Dieu pour quelque chose de plus grand. Voilà ce que Anne avait discerné, ce que Marie avait discerné aussi. Je me réjouis pour moi, mais je me réjouis davantage parce que les orgueilleux vont être confondus. Dieu va confondre les méchants. Dieu va libérer son peuple. Voilà, elle commence à chanter, elle commence à prier, à louer le Seigneur à cause de ça. Parce qu'elles sont entrées, ces deux femmes-là sont entrées dans le plan de Dieu. Elles ne sont pas restées dans une logique de satisfaction personnelle, comme beaucoup regardent leurs enfants comme une satisfaction personnelle, au lieu de discerner le plan de Dieu pour les enfants, au lieu de prier dans ce sens que les enfants entrent dans le plan du Seigneur pour eux, et ils sont en train de les observer comme des poupées, des poupées de vitrine pour leur satisfaction personnelle, et c'est pas bon, et c'est pas biblique. Les deux femmes, Marie et Anne, donc quand on relit leurs prières, on se rend compte qu'elles sont passées d'une satisfaction personnelle au plan de Dieu. Et je voulais dire autre chose, c'est que quand est-ce que Anne fait cette prière? Est-ce que c'est au moment où elle met au monde Samuel? Non, ce n'est pas au moment où elle met au monde Samuel. C'est au moment où elle l'offre à Dieu. Donc la joie d'Anne monte en elle au moment où elle donne Samuel à Dieu, au moment où elle le perd en quelque sorte. C'est en ce moment que la joie explose en elle. Donc, c'est pour nous dire que cette femme-là, comme c'est écrit dans le chapitre 1er, elle n'est plus été la même le jour où elle a fait cette prière-là. Il y a eu une connexion avec le ciel extraordinaire, de sorte que quand elle a accouché de Samuel, elle ne s'en est pas glorifiée, elle n'a pas fait des chants. Elle a attendu le moment d'offrir à Dieu. C'est ce moment qui, pour elle, était le plus important. Ce n'était pas le fait de l'avoir comme enfant, c'était le fait de l'offrir à Dieu qui était le moment le plus important. Et ça a fait sortir la prière. C'est ça la réalité, bien-aimée. C'est quand on partage avec Dieu que son esprit vient. On se souvient, non? Dans les sacrifices que le Seigneur demandait. Et quand on faisait ces sacrifices, on se souvient de l'inauguration du temple de Salomon. Il y a eu une gloire qui a rempli le temple. C'était trop fort. On se souvient d'Élie, quand il a fait les sacrifices, il a prié, allez, le feu est venu du ciel. Donc c'est lorsque on s'offre à Dieu que la vraie joie vient. On peut toujours avoir des joies secondaires. Quand on chante, on prie, on peut avoir des joies comme ça secondaires. Mais c'est vraiment quand on a fait le bien, on a offert des choses au Seigneur. C'est là que ce n'est plus une joie naturelle, mais elle vient du ciel. C'est comme si les anges, ils ne se montrent pas, mais l'esprit qui les anime pour chanter, alors que nous, on ne les voit pas, cet esprit-là entre en toi. Tu commences à louer Dieu. Parce que pendant que nous, nous faisons ces choses-là, les anges se réjouissent au ciel. Mais on ne les voit pas. Ils se réjouissent que leur maître est élevé. Dans le... Vous savez, pour les anges, nous sommes comme des pays, comme des territoires. Donc quand un humain est consacré à Dieu, les anges célèbrent leur maître qui a pris un autre territoire, qui est célébré dans ce territoire-là. Ils célèbrent. Maintenant, cette joie-là va descendre sur la personne qui est la source de la joie de Dieu. C'est ce qui explique que, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, Paul célèbre le Seigneur, pourtant il est dans une position très difficile. Mais comme il a accepté cette position, considérant que Dieu est là, ça produit la joie. Mais quand on est dans le murmure, on se dit dans le plan de Dieu, mais on murmure quand même, ça ne peut pas produire la joie. Mais c'est quand Anne vient offrir son enfant, mais avec joie, en considérant que je me branche au ciel, je me branche au plan de Dieu, la joie monte. Ça explose même en une telle prière. Il dit, mais les orgueilleux seront confondus. Cet enfant va relever les faibles. Dieu a relevé les faibles. Voilà. C'est important. On le voit, je me souviens d'un frère dans les pays persécutés, je crois que c'était la Russie ou la Roumanie. Il revient du jugement. Il était en prison déjà, mais il fallait, en attendant le jugement, dans ces pays-là, il y avait la dictature à l'époque, il y a 50 ans, 60 ans, même bon, 70 ans. Le temps qu'on te juge, tu es quand même en prison. Et le jour du jugement est arrivé. Quand il rentre, il est hyper content. Maintenant, les autres amis chrétiens cherchent à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour qu'il soit content comme ça? Ils l'ont ticoté pour qu'ils disent, ils leur disaient en image. Puis à un moment donné, il leur dit, je suis dans la joie parce qu'on m'a condamné à mort. Bientôt, j'irai voir le Seigneur. Voilà. Donc cet homme a offert sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, même quand ils évangélisent, ils prêchent, ils font des choses, leur joie, c'est quoi? C'est que les gens, qu'il y ait des conversions. Ah là, ils sont dans la joie. Leur joie, c'est quoi? C'est que à la fin, les gens disent, vraiment, j'étais dans les problèmes, ta prédication m'a touché. Bien aimé, non, c'est pas... Là, ce que Jésus dit concernant les pharisiens, mais tu as obtenu ta récompense, les gens t'ont félicité. La joie d'un prédicateur, d'un serviteur de Dieu, c'est d'avoir obéi à son maître, d'avoir offert son temps, sa vie. On va le critiquer. On va dire qu'il est devenu zéro, il commence à prier. Mais vivre ça pour son maître, c'est ça sa joie. On se souvient encore d'un autre épisode. Quand les disciples ont été fouettés, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, il nous a dit qu'ils étaient contents d'avoir été fouettés pour Dieu. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est quand on souffre que la joie vient du ciel. Et c'est là que le païen va dire, c'est pas normal, il y a un problème. Mais si on fait des bons résultats, même dans le Seigneur, qu'on se réjouisse, ça va étonner qui? Ça va étonner qui qu'on revienne à la maison. Même chez les, on a des frères païens, des sœurs païennes, on leur dit, ben on a fait une campagne d'évangélisation, il y avait 10 000, 15 000 personnes, ils ont été touchés, vraiment je suis dans la joie. Mais ça va étonner qui par rapport à cela? Mais si tu reviens dans la joie, on te dit comment ça s'est passé? Ah ben personne ne m'a écouté, mais j'ai parlé du Seigneur. C'est la bonne nouvelle, comme Watchman y a dit. La bonne nouvelle doit être proclamée. Une bonne nouvelle n'a pas besoin de résultats. C'est une bonne nouvelle en elle-même. Ça doit procurer la joie de dire que Jésus est mort à la croix pour les pauvres, pour tout le monde. Rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça doit réjouir la personne qui la proclame. Que le résultat extraordinaire nous réjouisse, mais ça va réjouir tout le monde. On le voit dans le sport, que les gens gagnent le match et qu'ils soient contents. Ça va étonner qui? Ça va impressionner qui? Mais que tu reviennes dans la joie, mais ah, ça s'est passé comme on a perdu 4-0, mais on était fair play. Ah bon? Et tu es content comme ça? Mais c'est ça qui va interpeller les gens. Parce que c'est une joie qui n'est pas normale. Et c'est ça la joie qui vient du Seigneur lorsqu'on s'offre à lui, lorsqu'on se donne à lui, lorsque tout échoue, mais on le célèbre parce qu'on considère que ce qui a échoué là, nous l'avons offert au Seigneur. Parce que cette femme-là est en train de perdre son fils bien-aimé. Rendons-nous compte de tout ça. Ce n'est pas parce que tu lis que tu dois ignorer la souffrance de l'autre. Elle est en train de perdre son fils, mais elle est dans la joie parce qu'elle offre cet enfant-là à Dieu. Elle va jusqu'au bout. Elle se branche au ciel. Amen. Elle est dans la joie parce qu'elle se branche au ciel. Et c'est que ce n'est pas n'importe quoi que de donner la chose à Dieu. Ça la branche au ciel davantage. Et elle est dans la joie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et quand tu fais les choses comme ça, le plan de Dieu est en train de descendre sur terre et s'accomplir. Et c'est ça la suite de... Je lis encore verset 6. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre. C'est lui qui l'a posé sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent, mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres. Car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Du haut du ciel, le Seigneur fait gronder le tonnerre pour écraser ses adversaires. Car il est le souverain juge de la terre. Il rend puissant le roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Amen. Voilà, nous continuons verset 11.
Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment, et l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice : donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait : quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait : non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant : que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était...
Voilà, oui, on peut continuer.
Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit : pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes.
Amen. Voilà, on voit le contraste. Hein. On voit le contraste entre un enfant offert au Seigneur et un enfant non offert au Seigneur. Même alors que eux, ils avaient le titre, les fils d'Élie, Ophni et Phinéas, c'était des prêtres, des sacrificateurs aussi, mais des gens, des pervers. Et donc, on peut supposer, conformément à Proverbe 22,6, qui nous dit quoi ? Proverbe 22,6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, on peut supposer que Élie n'a pas fait son boulot jusque-là. Donc, même si on n'aborde pas encore la suite, rien qu'à ce niveau-là, on peut le supposer déjà, tiens, comment ces gens-là ont son prêtre, ils se comportent comme ça, des vrais pervers, jusqu'à coucher avec des femmes au temple. Vous vous imaginez le niveau de bêtise, le niveau de perversité au temple, jusqu'à ce niveau-là. Donc on peut supposer que Élie n'a pas fait le job, il n'a pas été jusqu'au bout. Par rapport comme Anne qui a donné son enfant jusqu'au bout au Seigneur, Élie, puisqu'on voit le contexte, on dit « Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur. » Et verset 26, « Quant au jeune Samuel, il continue. » Là, j'avais lu le verset 21, le verset 26, « Quant au jeune Samuel, il continue de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. » Donc, on voit la différence. Quand un enfant est offert au Seigneur, tôt ou tard, puisque c'est l'enfant du Seigneur, le Seigneur va s'employer à ce que ça se manifeste que c'est son enfant. Mais quand on a géré un enfant comme son propre enfant, eh bien, tôt ou tard, ça se manifestera que ce n'était pas l'enfant de Dieu, c'était ton enfant. C'est ce qui se passe là. On n'a pas encore lu la suite, mais rien que ce qu'on lit nous le fait dire. Oui, question ?
Oui, pasteur. Je voulais juste comprendre parce que effectivement, là, on voit que Anne a ramené Samuel au temple, tout ça. Et à nos jours, aujourd'hui, on voit aussi que il y a des couples chrétiens qui effectivement consacrent leurs enfants au Seigneur, mais par la suite, on voit que les enfants ne suivent pas. Donc, est-ce que, comme tu disais, que Anne est partie jusqu'au bout ?
Voilà, je pense.
Mais les chrétiens d'aujourd'hui aussi font le nécessaire. Tous ceux qui sont dans la vérité. Mais on voit quand même
des. Ils ne partent pas forcément jusqu'au bout. Hein.
Oui, mais qu'est-ce que tu entends par
ça ? J'en suis témoin avec pasteur. En tant que pasteur, je vais vous citer un exemple. Il peut nous arriver d'avoir des réunions une fois par mois où, puisque les parents travaillent, les enfants sont là. Donc on peut aller peut-être jusqu'à 21h. Ah, mais il y a des parents à 19h45 qui vont sortir leurs enfants. Mais demain, il est l'école. Mais attends, juste une fois le mois, l'enfant ne peut pas dormir à 22h. Mais attends, ça n'est pas aller jusqu'au bout. Si maintenant c'était tout le temps, je comprendrais. Mais une réunion comme ça, qui vient par trimestre, où on peut déborder, aller jusqu'à 21h, eh ben, tranquillement, ils vont sortir leurs enfants, il y a école. Donc, c'est à qui ces enfants-là ? C'est à Dieu, ces enfants-là. C'est important. Toi, tu te comportes comme si c'était les enfants de l'école. C'est ça un exemple que je peux vous en citer, hein, mais je ne veux pas que ça paraisse comme si je vise les gens. Ce sont des choses dont j'en parle pas, ça me blesse seulement le cœur, je prie seulement devant Dieu, je dis, mais voilà, là, où en quoi ça c'est des enfants de Dieu ? C'est pas des enfants de Dieu, ça devient des enfants de la personne. Parce que je vois mal comment un jour comme ça, juste qu'un enfant dorme 2 heures plus tard, ça va gâcher sa vie, pas du tout, ça ne va pas gâcher. Moi, je vois, après, ce n'est pas des enfants, ben, c'est des jeunes eux-mêmes. Nous, quand on s'est convertis, examen, on servait le Seigneur. Hein, ben, là, bon, on déplace le sujet. C'est pour dire que beaucoup de gens ne vont pas jusqu'au bout. Examen, je ne vois pas en quoi un culte de 2 heures va m'empêcher de faire mes examens, sincèrement. Je ne viens pas parce qu'il y a des examens, m'attendez. Mais, donc, tu veux dire que toute la journée, tu ne fais que lire. Il n'y a pas un moment où tu regardes la télé quand même. Donc, non, bien-aimé. Beaucoup de gens ne vont pas jusqu'au bout. Après, on s'étonne. On dit, ah, mais pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce qu'on n'a pas donné au Seigneur. On n'a pas tout donné. Oui ?
Dans les Lévitiques, quand on avait étudié les Lévitiques, on voyait que l'Éternel préconisait de donner les prémices. De lui offrir les prémices, voilà. Est-ce qu'on peut dire que Anne, elle offre Samuel, mais après elle a d'autres enfants, donc on voit quand même la différence. Est-ce qu'il faut que ça devienne, ma question c'est, est-ce qu'il faut que ça devienne systématique d'offrir tout, D'accord, mais on n'en parle pas des autres fils de Anne. Pourquoi seulement Samuel? Parce que c'était le premier-né
comment... Non, c'était c'était le contrat avec Dieu. Mais je te rejoins pour dire, c'était quand Dieu demande la dîme. En réalité, il demandait le premier-né. Mais au lieu de lui donner le premier-né, on donne la dîme à la place. Donc Anne, elle a appliqué le commandement original.
Voilà.
Donc elle a donné carrément le premier-né. Donc je te rejoins pour dire gloire à Dieu. Elle a appliqué le commandement premier. Elle n'a pas donné la dîme à la place.
Donc c'est quand même conseillé d'offrir son premier enfant, quoi. Quand on est consacré au Seigneur, en fait, premier, deuxième, voilà. Mais le premier, en tout cas, quoi.
Oui, mais aujourd'hui, nous, les gens de Nouveau Testament, on sait qu'on doit tout offrir. Voilà, tout. Donc, pas seulement le premier, tous les enfants. Ce n'est pas seulement le premier. Mais on sait que ça a une importance à un enfant. Le premier n'a une importance aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, on voit la différence. Comment Anne ne s'occupait même pas de l'éducation de Samuel. On est d'accord, puisque Samuel était au temple. Samuel était au temple avec qui? Avec le vieux Élie, non? Au moment où les fils d'Élie étaient quoi? Des pervers. Et Élie lui-même ne réagissait pas. Mais dites-moi maintenant, comment vous expliquez que Samuel et lui soient bien élevés? Qu'ils grandissent et qu'ils plaisent à Dieu et aux hommes. Alors que sa maman n'est pas là pour lui donner l'éducation. Élie a déjà loupé l'éducation de ses propres enfants. Et il n'est plus en mesure d'être vraiment fort pour serrer un enfant. Comme grand frère, il a des pervers. Mais malgré ça, lui, il reste agréable à Dieu. Un enfant. Comment expliquer ça? Parce qu'il a été donné à Dieu. Tout simplement. L'explication est simple. Il a été donné à Dieu. Dieu s'occupe de la suite. Mais quand tu dis, je donne à Dieu, après tu surveilles l'enfant, tu commences à tout contrôler encore sur l'enfant. Est-ce que tu as vraiment donné à Dieu? Quand on donne, on s'écarte. Anne a donné, elle est rentrée. Et elle revenait de temps à autre avec une nouvelle robe, une fois par an, avec un nouveau vêtement, avec des bisous pour son enfant. Mais elle a donné et s'est écartée. Je ne demande pas qu'on chasse, qu'on sorte nos enfants de nos maisons, non. Si tu as donné, tu dois faire confiance en Dieu pour les choses que tu ne maîtrises pas. Pour ce que tu peux maîtriser, payer les frais scolaires, tu payes. Mais les choses que tu ne peux pas maîtriser, tu dois faire confiance en Dieu puisque tu as donné à Dieu. C'est important. Et là où tu sens qu'il y a des frictions, ton intervention fait des frictions, tu te limites au strict minimum et tu laisses Dieu faire la suite. C'est ainsi. Un enfant qui ne veut pas t'écouter, mais tu l'abandonnes entre les mains de Dieu. C'est tout. Puisque tu l'as donné à Dieu. S'il faut qu'il échoue pour qu'il comprenne, mais il faut faire ça. Mais nous, on va vouloir toujours, même l'enfant ne veut plus écouter, on veut le surencadrer par la force. Non, laissons-le. Et il y a des cas où on va même leur ouvrir la porte de la maison. Bye bye, mon ami. Donc, va avec ton orgueil, reviens millionnaire, on t'accueillera. Voilà, c'est tout. Et maintenant, puisqu'on a donné cet enfant à Dieu, mais on va vivre Luc 15, un jour, l'enfant va revenir, mais transformé, puisqu'on l'a donné à Dieu. Vous savez, quelque chose qu'on a donné à Dieu, personne ne peut toucher. Mais il faut pratiquer ça, vivre le fait qu'on a donné un enfant à Dieu. Alors, on va rester avec un enfant qui transforme notre maison en dépotoir spirituel. Mais puisque c'est notre enfant, donc on doit laisser faire. Non. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas donné à Dieu, on ne le gère pas pour Dieu, on le gère pour nous, pour notre chair. Et c'est ce qu'Élie faisait, il a laissé les enfants pervers qui étaient là, il n'avait pas le courage. Et Dieu va lui faire comprendre. Oui.
Oui, pasteur, quel conseil tu donnerais dans le cas où, dans une famille, les deux parents sont, on va dire, plus ou moins chrétiens, on va dire, la maman est peut-être plus engagée que le papa? Mais elle n'a pas l'autorité. Elle voudrait bien consacrer les enfants à Dieu, mais le mari s'y oppose. Donc comment rassurer une telle sœur, sachant que dans le cas contraire, l'homme, s'il a l'autorité, bon, il pourra plus ou moins s'imposer. Mais dans le cas où la femme voudrait que ses enfants soient consacrés, soit participent aux activités de l'église, ainsi de suite, mais le mari fait barrage.
Oui, mais consacrer, c'est ça, c'est aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire confiance en Dieu, c'est ça aussi consacrer. Je fais confiance en Dieu, moi je les ai donnés à Dieu, je fais, là où il y a des frictions, comme j'ai dit, je fais le strict minimum et je laisse Dieu faire la suite. Et Dieu va faire. Voilà, ne pas entrer dans des conflits qui finalement vont t'avilir, vont te salir et vont t'empêcher toi-même d'être pur devant le Seigneur. Lorsqu'on sent qu'il y a des conflits qui commencent à vouloir nous salir, nous amener nous-mêmes à nous écarter de la parole, on fait le strict minimum et on le reste dans la prière et dans la confiance au Seigneur. Oui.
Moi, je voulais savoir par rapport à justement l'éducation, les enfants, donc laisser les enfants au Seigneur. Mais c'est jusqu'à quand ? Parce que les enfants grandissent dans le foyer, les enfants, on ne peut pas leur imposer, les parents ne peuvent pas imposer aux enfants d'aimer le Seigneur ou de servir Dieu. Donc on essaye, je pense, comme tout parent, d'imposer un règlement dans la maison. Mais quand l'enfant, justement, n'est, entre guillemets, est païen, quoi, il n'a pas donné sa vie, il ne veut pas, parce que ce n'est pas à nous de choisir pour lui. Donc comment donner un enfant à Dieu si l'enfant lui-même n'aime pas Dieu?
Non, mais donner un enfant, on l'a donné déjà avant. Mais on doit aller jusqu'au bout. Si on a donné à Dieu, on doit faire confiance que Dieu peut changer l'enfant. Donc on fait, quand il y a des frictions, maintenant on fait le strict minimum. Et ça peut nous amener à nous séparer de l'enfant aussi s'il le faut. Puisqu'on fait confiance en Dieu, que Dieu fera le travail puisqu'on lui a donné cet enfant.
Et donc, pour des parents qui n'ont pas donné leur enfant au Seigneur quand ils étaient petits ou des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, on apprend ça.
Non, voilà. On peut donner même adulte. Quand on prend conscience, on peut donner l'enfant à 35 ans, on le donne à Dieu. Ça vous dit que le lendemain, il ne faut pas venir pleurer dans le bureau du pasteur. Ah, il y a encore un tel problème. Non, tu as déjà donné à Dieu, c'est bon. Voilà, donc on l'a donné à Dieu, on continue à prier pour lui. C'est ça, aller jusqu'au bout. C'est-à-dire ne pas récupérer ce que tu as donné. Parce que si tu as donné quelque chose, tu as donné. Voilà. Donc Anne a donné son enfant, elle est rentrée chez elle. Voilà, c'est comme ça. Mais Dieu, dans sa fidélité, lui a donné encore beaucoup d'autres enfants. Mais voilà. Et le Seigneur nous promet qu'il nous donnera toujours des enfants. Tant que nous, on lui a donné nos enfants, lui, il va nous en donner d'autres en Christ et en physique aussi. Voilà. Nous continuons donc l'avertissement de Dieu à Élie, verset 27.
Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit : Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je trancherai ton bras et le bras de la main de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant moi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira : Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger.
Voilà l'avertissement du Seigneur. Il nous est dit, un prophète vint trouver Élie et lui dit. Un prophète vint trouver Élie et lui dit. Mais dans l'autre version, diacre, c'était qui quoi?
Un homme de Dieu vint auprès de lui voilà. Et lui dit.
Donc on ne nous dit pas qui est cet homme-là. Il faut comprendre que là, dans la structure religieuse de l'époque, Élie est au sommet. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui qui tient l'arche de l'alliance. Donc il est au sommet. Et maintenant, il y a un homme de Dieu qui vient lui parler. Et souvent, quand les gens sont au sommet, ils n'écoutent plus. Un homme de Dieu vient lui parler, dit, mais voilà, tu es en train de mettre tes enfants au-dessus de moi. C'est quel verset? Au verset 29. Alors, pourquoi traitez-vous sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de me présenter en tout temps? Pourquoi vous engraissez-vous des meilleurs morceaux de ce que mon peuple d'Israël m'apporte en offrande? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même? Le fait que ses fils se comportaient comme ça et qu'Élie ne prenait pas de mesure, Dieu considère que il craint ses fils plus que lui-même. Élie avait un double lien avec ses fils. C'était d'abord ses fils, donc il pouvait agir en tant que père. Deuxièmement, c'était des prêtres sous son autorité à lui, le souverain prêtre, le grand prêtre. Donc il pouvait agir aussi de ce côté-là. Mais non, il regardait. Il a fait bon, une leçon en disant, oui, là vous provoquez Dieu. Si vous avez des problèmes avec un homme, Dieu peut intervenir pour arbitrer. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu lui-même, maintenant qui va arbitrer? C'est ce qui se limite à dire à ses enfants. Voilà, c'est mieux que rien, dira quelqu'un. Mais ce n'est pas suffisant. Quand tu es en position d'autorité et que tu dois prendre des mesures, toi, tu te limites à donner un conseil plus ou moins vague, ce n'est pas suffisant. Tu es en position d'autorité. Donc, voilà. Du coup, il envoie un homme lui parler, un homme de Dieu lui parler. On continue la suite, chapitre 3.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Et Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ?» Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon.
Voilà, comme toute réponse, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Oui, on va écouter la question.
Question Internet. Quoi faire lorsqu'on n'a pas remis le premier-né au Seigneur parce que l'on n'était pas converti à sa naissance?
Oui, on le remet quand on se convertit. C'est tout?
C'est tout, c'était l'unique question.
Ok. Oui, autre question?
Oui, question, juste pour revenir sur Ophni et Phinéas. Comment on peut en arriver dans cette situation de se dire, je pense que Élie à la base, quand il s'engageait à servir Dieu, l'avait fait de tout son cœur, et peut en arriver petit à petit à ne même plus voir le péché s'installer dans sa propre famille.
Je crois que il devait avoir, c'est ce qui nous est dit au verset 13, il n'a pas réprimandé ses enfants. Il devait avoir un amour, et puis dans un autre verset, il dit qu'il honore ses enfants plus que Dieu. Je crois qu'il a fait un choix terrestre dans sa gestion des enfants. C'est ça qui l'a amené à tout ça. Au fait, les enfants, ils devaient... Au fait, on nous donne deux textes. Dieu est bon envers nous parce qu'il nous donne, dans le même texte, deux comportements qui s'opposent, opposés, pour nous aider à savoir quelle a été l'erreur de l'un et qu'est-ce que l'autre a fait de bien. Au fait, on voit que Anne a donné son enfant au Seigneur et est allée jusqu'au bout, alors qu'Élie, lui, il a géré les enfants comme tout humain gérerait les enfants, aimerait ses enfants. D'ailleurs, on voit certains humains qui sont quand même durs envers leurs enfants pour qu'ils soient des gens sérieux. Mais lui, il a fait des enfants comme un bien personnel. Il s'est laissé entraîner dans un amour charnel pour ses enfants. Je crois que c'est ça qu'il a perdu. Au lieu de les donner au Seigneur, au lieu de les préparer pour servir le Seigneur, lui, il s'en est satisfait comme d'un bijou qu'il avait, de bijoux qu'il avait. C'est ça l'erreur. Et à partir de là, il y a comme un voile qui s'installe. Quand quelqu'un est comme un bijou pour toi, il y a un voile. Même quand il fait le mal, il reste un bijou pour toi. Même quand, moi je vois, aujourd'hui, il y a des mamans, on dit que leur fils est un assassin, mais elles vont continuer. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas les aimer, mais elles vont continuer à traiter avec eux comme si ils étaient des gentils enfants. Alors qu'elles devront normalement dire, ah non, mon fils, tu ne viens plus dans ma maison. Elles continuent à l'aimer, mais tu ne viens plus chez moi. J'ai appris que tu vends la drogue, plus chez moi. Prends des mesures. Mais non, vous allez voir, même attitude, l'enfant va s'évader, elle va aller l'aider, et ainsi de suite. Ce n'est pas normal. Normalement, une maman qui aime son fils doit dénoncer son fils à la police. Donc dire, mon fils est dans ces choses-là, moi je ne le veux plus chez moi. Donc elle doit, c'est pour l'amour de son fils. Mais il y a un faux amour qui est en réalité un attachement égoïste. Une affection égoïste, c'est ce que beaucoup ont. Donc, Élie était dans cette affection-là égoïste. Ce n'était pas les enfants de Dieu, c'était ses enfants, lui.
Et deuxième question, c'est quelle est notre responsabilité en tant que chrétien lorsqu'on voit peut-être parmi nos responsables des gens se comportaient comme Élie vis-à-vis de leurs enfants. Je prends un exemple, hein, dans l'église où j'ai grandi, le pasteur avait placé ses enfants à certains endroits dans l'église et pourtant on voyait que les enfants se comportaient mal, parlaient mal et étant adultes, hein, avaient un langage vulgaire, tout ça. Mais c'était que si on leur reprenait par exemple la guitare, alors ils allaient quitter l'église. Comment faire...
Qui allait quitter l'église ? Le pasteur lui-même ?
Le fils, les enfants. Les enfants du pasteur allaient quitter l'église. Donc, ça, c'était le discours qui était tenu. Donc, quelle est la responsabilité des chrétiens de suivre un tel pasteur ? Ou est-ce que... parce que des fois, certes, on n'ose pas dire les choses parce que les gens sont nos responsables. Mais, alors que nous, on voit, et comme tu disais, il peut y avoir un voile qui s'installe. Comment faire ?
Comment faire ? C'est aller, aller voir, comme la Bible nous le dit. Donc, si ton frère a péché, s'il y a un souci, allez voir ton frère pour discuter avec le responsable. Dire, mais voilà ce qu'on constate. Allez le dire. C'est aussi un frère. Donc, le Nouveau Testament nous donne l'autorisation d'aller voir n'importe quel frère et discuter avec le frère, qui qu'il soit. Voilà. Donc, voilà la réponse que le vieux Élie donne. Ah ben, il est Dieu, il est Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. Ah, on dit que tes enfants vont être tués, vont mourir. Qu'il y a une grande malédiction sur ta famille, même ta la génération à venir. Tout ce que tu trouves à dire, ah, mais il est Dieu qui fait ce qu'il veut. Est-ce que vraiment on a encore le bon sens ? Je ne pense pas. Donc quelqu'un... Lorsqu'on menace tes enfants, quand même, tu dois réagir. Donc, on voit qu'Élie était tombé dans une léthargie par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la vérité. Il était là, l'embonpoint l'avait saisi, l'embonpoint négatif, quelque chose de négatif. Donc, il était là, je suis souverain sacrificateur, sans fonctionner. Au fait, il y a des gens maintenant qui ont des titres, mais ils ne fonctionnent plus dans ces titres-là. Il a le titre de chrétien, on dit qu'il est disciple de Jésus. Il est chrétien, mais le fonctionnement du chrétien n'y est plus. C'est une étiquette, c'est un cachet. Là, Dieu nous appelle à fonctionner. Et Élie, on te dit quelque chose, mais fonctionne. Appuie sur le bouton de la miséricorde. Crie à Dieu. Ah non, il est Dieu. Qui fait ce qui lui semble bon. Ça, c'est une réponse de défiance. C'est une réponse, quelque part, de mépris aussi. Ah ben... Si c'est ça qu'il trouve à faire, qu'il fasse, ce n'est pas normal. Normalement, quelqu'un doit chercher la repentance. Même si, dans un premier temps, tu ne vises pas l'annulation de la malédiction de Dieu, mais au moins, on te dit que tu fais du mal, tu te comportes mal, au moins repens-toi. Dis, ah oui, c'est vrai, j'ai péché, je veux m'en repentir. Je ne sais pas si Dieu va enlever ce qu'il a décidé comme malédiction, mais moi, je me repens. Je ne veux pas rester dans le péché. On voit que c'est quelqu'un qui était vraiment en perte spirituelle, totale. En perte spirituelle, il n'a pas eu même envie de se repentir. Il n'a pas eu même l'envie de préserver ses enfants. Donc on sent, moi personnellement, je pense qu'il était, dans une certaine colère vis-à-vis de Dieu. Sa réaction, pour moi, c'est une réaction de... Il devait avoir un truc dans son cœur contre Dieu. Et voilà, il sort sans dire, ben, il est Dieu qui fait ce qu'il veut. Et je voulais aussi souligner deux éléments très importants qu'on a lus dans la prophétie que Dieu donne à Samuel. C'est qu'il dit deux choses. Ses enfants, Élie honorait ses enfants plus que lui. Et deuxièmement, comment on peut le savoir ? Il ne les a jamais repris. Il les a laissés comme des princes. Faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut qu'on sache reprendre des gens qu'on aime. C'est ça aussi la vérité. Donc, on ne doit pas faire de nos enfants des princes. Quand ils vont faire le mal à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Donc, on ne les reprend que quand ils nous font à nous-mêmes peut-être directement le mal. Mais quand ils font des bêtises ailleurs, il ne faut surtout pas qu'on les touche. Il y a des parents qui n'aiment pas qu'on redresse leurs enfants. Ce n'est pas normal. Donc, tu fais d'eux des princes, tu fais d'eux des enfants de gâtés. Ce n'est pas bon. Et ça, c'était le problème d'Élie. Donc, ne reprenant pas ses enfants,
c'était comme si, ce n'était pas comme si pour Dieu, il leur a donné sa place, donc à lui Dieu. Donc il les a honorés plus que Dieu lui-même. Oui.
Oui, pasteur, j'aurais juste souhaité revenir sur un point que tu as développé. Je pense que c'est... Et tu l'as dit, mais je pense que ça a peut-être troublé certaines personnes. Lorsque tu as dit que, même en étant parent, il fallait qu'on puisse aussi dénoncer nos enfants, par exemple, s'ils ont fait du mal, s'ils ont vendu la drogue à la police. Ma question, c'est, est-ce que tu peux développer juste un peu cela, de manière à ce qu'on ne soit pas troublé? Parce que même la loi des hommes, prévoit que les familles soient aient un aménagement particulier. Lorsque, par exemple, il y a des recherches ou bien qu'on recherche des terroristes ou autres, il y a un aménagement particulier pour la famille. Parce qu'on sait très bien que... Enfin, la famille, on parle surtout des parents. On sait très bien que les parents ne dénoncent pas leurs enfants. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin, nous, avec le Seigneur, par rapport à ça?
Nous, le Seigneur nous appelle à la vérité. Donc, on doit... Je ne dis pas qu'on aille porter plainte contre nos enfants. Je dis tout simplement, on doit dire la vérité sur ce qu'ils sont. Voilà. On doit dénoncer, c'est-à-dire dire la vérité sur ce qu'ils sont. On ne dit pas d'aller dire, mais il a caché ça dans telle rue. Non. Mon fils, son boulot, il vend la drogue. Voilà. Mais faites votre boulot en tant que policier. Moi, je vous dis la vérité. Et voilà, moi, je sers le Seigneur. Je ne veux pas ce mélange-là chez moi. Voilà. Donc, on doit être prêt à dire la vérité. Mais pas devenir policier. Voilà, c'est ça, quoi. Oui. Oui.
C'est juste un commentaire.
On passe d'abord là-bas.
Oui, pasteur. Pourtant, au verset 22, on voit quand même que Élie a quand même repris ses fils, il a reprimandé quand même ses fils, il a parlé quand même à ses enfants par rapport à ce qu'il a entendu de ses enfants.
Ah non, il les a pas réprimandés.
C'est quand on dit Élie fort âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point. Donc, il a quand même leur parlé. Mais...
Prêché. Donc, il a prêché, ses enfants. Il a fait une prédication, donc il ne faut pas vous faire pécher les gens, voilà, c'est pas bon quoi. C'est une prédication, mais la réprimande, c'est prendre des sanctions, prendre des mesures aussi. Tu parles et tu prends des mesures, surtout que tu es dans cette position d'autorité, parce qu'Élie était leur chef institutionnel. C'était leur chef. Donc il devait dire, donc dorénavant, vous ne faites plus les sacrifices. Vous vous tenez à l'écart de tout ça. Voilà, je vous remplace par d'autres personnes. Mais il n'a pas fait ça. Il les a laissés, il a prêché. Oh, on n'est plus dans le cadre de la prédication, là on est dans le cadre de sanctions, de la réprimande. Il n'a pas fait ça, il a dit, ah ben non, mais c'est pas bon, il faut savoir que là vous attaquez Dieu, il faut savoir que voilà, vous créez des problèmes. Quoi. Non, mais tu es en position d'autorité, tu as été placé pour mettre de l'ordre, il faut mettre de l'ordre. Oui.
Élie était de la descendance des Lévitiques, c'est pour
Est-ce
ça qu'il
le
était...
micro est allumé? Oui, d'accord. Okay.
Élie était de la descendance des Lévitiques. C'est pour ça qu'il était le souverain sacrifié.
Ah oui, bien sûr. Descendant d'Aaron.
C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on est descendant d'Aaron qu'on a cet amour pour Dieu. Et il y avait cette position, oui.
Oui.
Mais il n'avait pas cet amour pour Dieu.
Effectivement.
Pour être le chef, tu sais.
Oui.
La position qu'il avait. C'est pour ça qu'il aimait plus... ses fils que Dieu.
Oui, ce qu'on peut dire, oui, je suis d'accord avec toi, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas parce qu'on s'appelle chrétien, c'est pas parce qu'on s'appelle pasteur que forcément, voilà. Donc, on a, nous tous, à aller toujours plus loin. Donc, on ne doit pas s'arrêter quelque part, dire, mais tiens, je suis apôtre, donc j'aime beaucoup le Seigneur. Non, ça, ce n'est qu'un appel. Donc, il faut... Ce que je peux dire pour te compléter, c'est qu'il faut faire la différence entre l'appel et le cœur de la personne. On peut avoir un appel à toucher 1 million de personnes ça ne fait pas de nous un amoureux du Seigneur. L'amoureux du Seigneur, c'est une question personnelle, c'est une question de cœur à cœur. On doit cultiver notre amour pour le Seigneur et ne pas confondre cela avec son appel. Certains pensent que plus l'appel est brillant, plus ils ont une proximité avec le Seigneur. Pas du tout. L'appel est à différencier du cœur à cœur. Voilà, donc ça c'est un appel, vraiment ta question nous rappelle que chacun doit soigner son cœur avec le Seigneur, sa proximité avec le Seigneur. Les résultats que produisent notre appel ne sont pas forcément l'image de notre relation avec Dieu. Lui, il était dans un grand appel, parce que souverain sacrificateur, c'est grand, donc c'est le sommet de l'époque. Mais malheureusement, le cœur n'était pas à Dieu. Alors, donc on doit différencier et l'appel et le cœur. Donc chacun de nous, quel que soit son appel, doit veiller sur son cœur. D'ailleurs, Proverbe 83 le dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Voilà. Oui.
Oh, je voulais juste finir. Puis on voit qu'il était aveugle physiquement à la fin de sa vie et en embonpoint spirituellement, il était aveugle et
voilà, effectivement.
Mou.
Effectivement, donc l'aveuglement spirituel a fini par devenir aussi aveuglement physique, quoi. Voilà. Donc c'est cela.
Moi, je comprends jamais quand tu dis que Dieu, parce que c'est pas la première fois que tu expliques un peu ça, que Dieu va utiliser par exemple une personne pour sauver 1 million de personnes, mais cette personne-là elle-même n'aime pas.
Non, je dis pas ça. Je dis que c'est à différencier. Les deux sont à différencier. Quand Dieu appelle la personne, forcément, il y a un lien, un contact avec la personne. Mais ce n'est pas une raison parce que tu as un grand appel que tu négliges ton cœur. Parce que ça peut en arriver à ce que ton cœur n'ait plus goût à Dieu. Mais tu es dans ton appel, tu fonctionnes. Et beaucoup sont dans ce cas-là, comme Élie. Il était dans son appel, il fonctionnait, mais son cœur n'était plus à Dieu. Donc on doit veiller sur notre cœur, malgré notre appel. C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que Dieu va appeler à ce poste-là quelqu'un qui ne veut pas de lui. Non, il y a un minimum pour que Dieu nous appelle.
Oui, voilà. Mais pourquoi Dieu... Moi, c'est toujours ça, quoi. C'est un peu le gaspillage, entre guillemets, d'utiliser une personne qui sait pertinemment qu'il ne va pas l'aimer. Enfin, Dieu va utiliser une personne qui sait que la personne ne va pas l'aimer
jusqu'au bout.
Et puis, c'est ça qui fait fauter
mais
aussi.
Mais le problème, il va trouver qui?
Mais lui, mais Dieu, il sait qui c'est qui va l'aimer jusqu'au bout.
Ah non, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça le problème.
Parce que moi...
Pourquoi il se contente de...
Ben oui, parce qu'après, dans les témoignages des chrétiens, ça fait fauter. Parfois, il y a des gens, comme tu dis, qui ont bien commencé. Et puis, le fait qu'il y ait eu des erreurs ou que ce bishop-là, il est devenu trop arrogant, il a changé. Après, ça casse l'image, ça peut cacher... On efface, en fait, ces fautes.
On a des exemples dans la Bible où des gens n'ont pas changé. Jean-Baptiste, Paul, Jean, Pierre, suivons ça. Donc, ne nous laissons pas déranger par tous ceux qui changent, quoi, comme Élie. Voilà. Donc, il y en a aussi qui ont tenu bon jusqu'au bout.
Pasteur
voilà.
Moshé, moi, gardé la foi. Je suis d'accord.
2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi.
Moi, suivons je suis d'accord.
Cet exemple-là.
Je suis d'accord avec ça, mais on est aussi dans une époque où, en 2018, 2019, il y a tout le monde... Ça a changé. Et aujourd'hui, les tentations, comme tu dis, parfois les bishops, jets privés, tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses autour
mais
des êtres humains.
La puissance du Seigneur est plus grande que toutes ces choses-là. Si la puissance du Seigneur te saisit, toutes ces histoires-là des jets privés, ça ne sert à rien devant toi. C'est une question de puissance et d'amour pour le Seigneur. Plus, c'est pourquoi on dit, donc, attention que ton appel ne te détourne pas de ta relation avec le Seigneur. Donc, on doit veiller à ce que nous aimions toujours le Seigneur plus que tout, plus que même notre appel. Donc, tu dois être prêt à échouer dans ton appel et garder ton amour pour le Seigneur. Et quand on commence à vivre que de l'appel, on finira par négliger l'amour pour le Seigneur et ça finit mal. Vous voyez quelqu'un qui ne pense qu'à à sa voix pour chanter, quelqu'un qui pense qu'à sa musique, mais il ne pense plus au Seigneur. Parce que le Seigneur peut faire que pendant 5 ans, tu ne fais plus la musique. Pendant 5 ans, tu ne chantes plus. Mais si tu ne comprends pas ça, tu aimes ton appel plus que le Seigneur, donc finalement, tu diminues dans ton amour pour le Seigneur, tu vas foncer dans cet appel-là et ça va finir mal. Donc, je crois que au-dessus de tout, l'amour pour le Seigneur doit compter. Voilà. Plus que même notre appel.
plus que même notre appel. Et donc, c'est ce que, quand on néglige ça, ça finit à ce qu'on voit là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise non. Que je perde tout, mais que je garde le Seigneur comme amoureux. Mon bien-aimé, cantique 2:16, mon bien-aimé est à moi, moi aussi je suis à lui. Voilà, ça doit être notre devise. Que j'échoue dans tout, même si les gens vont retenir de moi qu'il a échoué. Ah, mais il est resté fidèle à Dieu. Voilà, il est resté avec son Dieu. Ça a été jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 4, 7. Il le dit comme quelqu'un qui échoue parce qu'il est en prison. Il est, il va s'offrir en libation. Donc, mais il dit, mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé mon amour pour le Seigneur. Ça, c'est ça qui est important. C'est très, très important de veiller sur son amour pour le Seigneur plus que sur son appel. Et d'ailleurs, quand on est dans l'amour pour le Seigneur, forcément, lui veillera sur notre appel, lui-même nous conduira. Mais beaucoup négligent, je ne dis pas qu'on doit négliger notre appel, je dis tout simplement, l'amour pour le Seigneur doit être au-dessus de ça. Voilà.
Pasteur, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction et que les bénédictions de l'Éternel ne se suivent d'aucun chagrin. Comment expliquer que finalement ce sont les enfants d'Élie en fait qu'il conduit à sa chute? Est-ce que lui-même avait déjà un souci ou Dieu s'est servi de ses enfants pour montrer l'état de son cœur?
Non, je ne pense pas que c'est les enfants d'Élie qui conduisent à sa chute. Les enfants ont été le révélateur du fait que Élie négligeait le travail du Seigneur. Il a négligé la relation avec Dieu et finalement il a négligé son appel par la suite. Hein. Voilà. De souverain sacrificateur. Donc les enfants ont été le révélateur de ce qu'il était lui. Voilà.
Donc Dieu s'est servi de ses enfants pour montrer...
Ces enfants-là ont été le révélateur. C'est pas, parce que si on dit Dieu s'est servi, c'est comme si Dieu a pollué ses enfants. Non. Dieu, à travers les enfants d'Élie, nous dévoile qui est Élie. Peut-être s'il n'y avait pas ces enfants-là, on ne saurait pas que le monsieur dans sa tête, il néglige Dieu. On ne saurait pas. Mais ces enfants-là, son comportement vis-à-vis des enfants a montré qui il était.
Et comme la Bible dit, comme j'ai dit au début, que les bénédictions de l'Éternel ne se suivent d'aucun chagrin et les enfants sont une bénédiction pour nous. Mais au final, en fait,
Nous, on s'accapare les bénédictions du Seigneur, ce n'est plus les bénédictions du Seigneur. Et Élie s'est accaparé de ses enfants, c'est l'histoire de la manne. Quand quelqu'un gardait la manne pour lui, qu'est-ce que ça faisait? Ça pourrissait. La manne était faite pour être consommée immédiatement. Quand quelqu'un voulait garder ça le lendemain pour faire des réserves pour lui, ça pourrissait. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Quand il nous les donne, c'est pour qu'on le redonne encore à lui. Donc David dit, nous te donnons ce que tu nous as donné. Maintenant, quand quelqu'un ne respecte pas cette règle-là, on lui donne. Lui, il ne redonne pas au Seigneur. Ça finira par pourrir. Voilà. Voilà, donc, oui.
Donc, ça veut dire que Élie, si ses enfants n'avaient pas été, si ses enfants par exemple avaient été corrects, on n'aurait jamais su qu'en vérité Élie il aimait pas trop le Seigneur.
Oui, donc on l'aurait su peut-être d'une autre manière, mais là c'est à partir des enfants qu'on le sait. Et d'ailleurs là il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit que le péché de certains sont visibles très tôt, mais pour d'autres personnes c'est par la suite qu'on le voit. Donc, ça aurait été d'une autre manière qu'on l'aurait vu.
D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Tôt ou tard, le Seigneur aurait quand même révélé.
Le Seigneur,
nous,
Marc 82, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Tôt ou tard, il va nous montrer la chose. Marc 82. Voilà, c'est tôt ou tard. Donc, voilà. Nous nous arrêtons là pour ne pas nous perdre dans les idées. Voilà, on lit quand même le verset 19. À 21, pour finir le chapitre.
Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel.
Amen. Alors, vous voyez, à chaque fois, on nous fait ce contraste-là. Dès qu'on décrit les mauvais comportements d'Élie et ses enfants, on nous parle de Samuel. Là, on nous dit au verset 19, Samuel devint grand, le Seigneur était avec lui. Et ailleurs, pareil, quand on a
au chapitre 2, quand on a parlé, voilà, au chapitre 2, oui, quand on a parlé des reproches, donc au verset 22, Élie fait des reproches à ses enfants. Et au verset 26, quand on dit, quant au jeune Samuel, il continuait de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. On remonte, à partir du verset 12, pareil, on parle de fils d'Élie, c'était des pervers. On les décrit jusqu'au verset 17. Et au verset 18, on dit quoi ? Quant au jeune Samuel, vêtu du pagne de lin, il accomplissait son service en présence du Seigneur. Donc on voit que pendant que ces gens-là sont en train de faire leurs bêtises, Dieu est en train de construire un nouveau serviteur. Dieu ne se laisse pas surprendre. Il voit déjà la voie que quelqu'un est en train de prendre, il se construit un autre déjà. Il ne se laissera jamais surprendre. Il y a un verset qui dit, je oins mon serviteur David, l'ennemi ne le surprendra pas. Donc ne soyons pas découragés de se dire, ah tiens, il y a un qui est parti, qui a chuté, on se retrouve orphelin. Non, Dieu prépare déjà, il voit déjà la direction que prend quelqu'un, il prépare déjà un remplaçant. Et cette fois-ci, ça a été le cas pour Saül et David, il prépare maintenant l'homme selon son cœur. Là, c'était un homme selon l'héritage humain. Il était descendant d'Aaron. Mais là, maintenant, il était en train de préparer Samuel, un homme selon son cœur, pour prendre la place de berger d'Israël. Voilà, que Dieu soit béni. Ça nous apprend une chose importante. Confions tout au Seigneur, en particulier les enfants. Gérons les enfants dans le Seigneur. Confions-les au Seigneur, donnons-les au Seigneur, ne récupérons pas. Récupérer, ça veut dire tout ce que tu entends sur ton enfant, tu veux intervenir, tu veux te mêler de tout. Ce n'est pas bon. Si tu les as confiés au Seigneur, il y a des choses où tu peux intervenir, mais il y en a d'autres, tu devrais laisser le Seigneur faire. Le Saint-Esprit nous guidera. Mais il faut qu'au fin fond de nos cœurs, on dise « je les donne ». Au Seigneur. Et une grande joie viendra après, couronner cela. Et nous serons heureux de les voir vivre comme Samuel plus tard. Que Dieu vraiment nous aide dans cela, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à gérer nos familles, gérer même nos propres vies, Seigneur, en nous offrant complètement un sacrifice vivant, sain et agréable, à ne pas récupérer, à te laisser au contrôle de tout. Et nous croyons qu'une joie surnaturelle va nous submerger à ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous changer, de nous amener jusqu'au bout. Comme tu as amené Anne jusqu'au bout du sacrifice, que nous aussi on aille jusqu'au bout, que ça ne s'arrête pas dans les paroles qu'on prononce dans les chants, ni qu'on écoute dans les prédications, mais que ça devienne réel. Et je crois, Seigneur, la joie d'Anne aussi va se manifester en nous. Seigneur, préserve-nous de nous comporter comme Élie, qui a mis ses enfants au-dessus de toi, Seigneur. Préserve-nous. Aide-nous vraiment à être justes bibliquement, par le Saint-Esprit et par ta parole. Gloire et louange à toi, Papa. Au nom de Jésus. Amen.